BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie avec notre professeur vedette, hein, aujourd'hui ancien patron d'Essilor. Ça fait quelques années maintenant.
Hein. Ah bah ça fait 11 ans.
Mais voilà, ans, vous avez porté très haut. Xavier, bonjour.
Bonjour
Xavier Frédéric. Xavier Fontané, merci d'être avec nous. Et on va avoir avec vous une émission assez originale aujourd'hui, parce que, enfin, un sujet original avec vous. On en parle avec les gens du BCG, moi avec vous sur le réchauffement climatique, la réduction des émissions de CO2. Beaucoup d'auditeurs nous interpellent. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur X, sur LinkedIn, sur tous les sujets. Qu'est-ce que la stratégie peut apporter justement à tous ces sujets de CO2, de réduction de l'empreinte CO2, du réchauffement climatique? Alors, vous savez qu'en ce moment c'est la grande saison des AG, des grandes assemblées générales, des grands groupes. Et en fait, on voit que ce thème, alors il y a évidemment la rémunération des patrons, ça c'est le thème qui revient à chaque fois, mais il y a celui qui est vraiment en train de monter en puissance, c'est celui autour de tout ce qui est que font les entreprises pour leur transition écologique. Alors, on va essayer de comprendre un peu tout ça, Xavier. C'est pas un thème habituel.
Oui, c'est pas un thème habituel. Et au fond, je me suis amusé avec mes équipes à réfléchir à ce que la stratégie d'entreprise peut apporter à la lutte contre le CO2 et le réchauffement climatique. Et au fond, on va prendre un peu le point de vue des entreprises, des mineurs, des pétroliers, des électriciens, pour voir dans leur stratégie en quoi ils peuvent participer à cette lutte. Donc, on va prendre un point de vue d'entreprise.
Voilà.
C'est ça qui est original.
Alors, très concrètement, comment on va procéder?
Alors, je crois, vous savez, la stratégie, ça aime bien les chiffres. Ça sent que sur du concret, c'est pas des discussions de café du commerce. Donc, on va commencer à regarder. Donc, je vais vous ennuyer un tout petit peu avec des chiffres.
Mais c'est les chiffres, c'est la base de la discussion.
Il faut s'y mettre en... Et puis alors, vous savez, on va toujours chercher à simplifier, à chercher ce qui est important. Alors, bon, le premier graphique là, que je vous ai montré, alors, il faut dire au passage qu'il y a beaucoup de données. Grâce au GIEC, on connaît. Et les données, on trouve à peu près les mêmes. Donc, on va dire qu'on a des données assez solides. Voilà. Alors, ça, c'est la première. Donc, ça, c'est une historique sur... on va prendre 25 ans. Parce que, pour raisonner sainement, il faut au moins 25 ans. On ne va pas prendre 50, on va prendre 25 ans. Et c'est une historique de la consommation de l'énergie dans le monde. Alors, vous voyez qu'il y a deux choses à regarder dans ce graphique. La première, c'est que la croissance de l'énergie est quand même une croissance assez constante. C'est que le PIB mondial, il se développe, et le PIB, ça demande de l'énergie. Donc, c'est une croissance très régulière, de l'ordre de 1,5 par an. Et puis, l'Europe, c'est comme un gros paquet. Vous voyez, c'est pratiquement 25, vous voyez, c'est plus qu'États-Unis et Canada. Alors, on peut voir aussi, deuxième point, c'est que l'Europe, c'est assez plat depuis quelques temps. Donc, il s'est quand même passé quelque chose. Faut pas trop se flageller. Donc, ce qu'on fait, c'est pas bien du tout, mais il y a quand même déjà en Europe, des amorces de solutions. Et cette émission, on va essayer de prendre un point de vue de l'Europe. On peut pas, dans une émission d'une heure et demi-heure, on va se concentrer sur l'Europe et voir...
Toute cette énergie donc qui croît de 1 milliard et demi de 1,5% par an, on rappelle en milliards de tonnes équivalent pétrole, on arrive à peu près à 12.
Oui, c'est 15, 15 milliards.
15 milliards de tonnes. Toute cette énergie, ça dégage du CO2.
Voilà.
Et donc là, on a aussi.
Là qu'il y a le gros problème, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de création d'énergie avec les méthodes traditionnelles. Sans dégagement de CO2, donc ça c'est vraiment les gaz à effet de serre, donc là, ça qui est un vrai sujet. Et donc il y a un consensus maintenant, il y a un gros consensus sur l'idée qu'il faut lutter contre les émissions de CO2. Et alors dans ce cas-là, on va regarder comment on se compare. Et alors, vous voyez, ce graphique est un graphique qui vient du GIEC également, donc ça c'est pas très contestable. Vous avez donc les consommations, les populations en abscisse et les consommations par habitant. Et puis les rectangles, c'est les masses. Alors, écoutez, on peut voir beaucoup de choses, on pourrait passer des heures là-dessus, mais on va regarder d'abord que la France, avec 4,5 tonnes par habitant, la moyenne mondiale c'est 5. 4,5 tonnes, on est quand même en dessous de la moyenne, et surtout, parmi les pays développés, on était meilleurs. Parce que si vous prenez les pays développés, les États-Unis c'est plutôt de l'ordre de 15, vous voyez, même la Chine c'est plutôt 7,5-10.
Le premier c'est quoi? C'est l'Arabie Saoudite.
C'est l'Arabie Saoudite qui est à 25. 25, là ils mettent 22, ça dépend des papiers, vous voyez. Mais donc, dans les pays. L'Allemagne c'est pas loin de 10.
Donc, dans les pays. Donc on est plutôt bons élèves, notamment par rapport aux Allemands.
On passe notre temps à se faire flageller et dire qu'on est. On va quand même dire là-dessus, on a quand même bien joué. C'est nos ancêtres, c'est Pompidou, de Gaulle, qui ont très très bien joué, et tous les grands EDF qui ont bien joué. Mais on a quand même des choses à dire. Et donc, je suis parti de ce raisonnement pour voir à partir des entreprises qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord. Voilà l'idée. Hein.
Oui, parce que alors la France, donc 4,5 tonnes par habitant, voilà. On l'a dit, on est meilleur que d'autres. Dans les pays développés, on est en tout cas plutôt bon. Mais on a encore pas mal de choses à améliorer. Hein.
Bah oui, il y a plein
heureusement, d'erreurs.
Alors,
heureusement,
on va maintenant creuser un peu dans le détail. Hein. Donc, on va mettre la slide suivante. Et la slide suivante, c'est on se met en France. Hein, vous voyez, donc en gros la France, rappelez-vous, c'était 4,5 tonnes par habitant, mm-hmm. 68 millions, hein, ça fait en gros 350 millions de tonnes. Alors vous regardez, c'est la décomposition par secteur. Et là, donc vous voyez, le gros truc, c'est le transport, hein, ouais. Presque la moitié. Hein. Ouais. Donc le transport, c'est vraiment le gros truc. Hein. Puis après, vous avez donc agriculture, industrie et résidentiel, qui sont à peu près 70. Hein. Bon, puis après, il y a production d'énergie et traitement de déchets. Mais les quatre premiers, qui font vraiment le gros paquet, ben, il y a en gros le transport, et puis après, il y a trois...
J'étais assez surpris, parce que je pensais que tout ce qui était bâtiment, construction, tout ça, ça aurait été le premier ouais. Pôle. Ben non, oui. C'est le transport.
Ben oui, ben Frédéric, donc vous avez raison, votre intuition, vous avez déjà l'intuition de la solution. Slide suivante, vous avez l'intuition parce que, effectivement, résidentiel tertiaire, c'est des énormes paquets. Alors regardez, on va creuser maintenant. On va essayer de regarder dans le détail d'où vient l'énergie. Hein. Et alors, vous voyez ce qui se passe. Alors, on va faire le dernier effort intellectuel. Hein. Qu'il faut absolument faire, c'est aussi raisonner en terawatt-heure. Hein. Terawatt-heure.
Ouais,
qu'est-ce qu'un terawatt-heure? Alors, un terawatt-heure, c'est 1 milliard de kilowatt-heure. Hein? Donc, les Français, vous voyez, ils vont consommer 1600 TWh.
Voilà.
Hein? Alors, si vous divisez ça par les 70 millions d'habitants, c'est 25 000 kWh par personne, vous voyez. Vous voyez, 10 centimes à l'EDF, ouais. 2500 euros, vous voyez. Alors, on est dans les ordres de grandeur. Hein? Mm-hmm. Mais donc, c'est un truc qu'on consomme. Hein? Donc, c'est une consommation, c'est pas la plus grosse, mais ça commence à être quelque chose. Alors, ben, écoutez, votre intuition, Frédéric, était absolument géniale parce que, vous voyez, le paquet résidentiel et transport. Qui consomme autant, donc vous avez raison, la cause. Mm-hmm. Hein, eh bien, en fait, le résidentiel, il consomme presque deux fois moins que le transport. Ouais. Et pourquoi? Vous voyez apparaître électricité. Vous voyez?
Et les trois. Oui, le transport, donc, je le dis pour ceux qui nous suivent en radio, le transport, donc, c'est 500 TWh de consommation d'énergie, mais l'origine de l'énergie, c'est du pétrole à 90%.
Hein, voilà.
Et alors que le résidentiel qui consomme pareil, 500 TWh, ben 40%, ça reste, c'est de l'électricité.
Et ben vous comprenez que la fée électricité, elle est drôlement efficace dans le stoppage des émissions de mm-hmm. CO2. Alors, il y a un truc aberrant, mais qui n'est pas aberrant. Effectivement, l'agriculture, c'est 50 TWh, donc c'est très très peu de dépenses d'énergie, et c'est une énorme... Mais ça, c'est à cause du méthane. Hein, mm-hmm. Parce que le méthane est 30 fois plus dangereux que le CO2.
Ouais.
Donc, tout ce qui est émission de méthane, et vous avez beaucoup avec le bovin, ouais. Et puis aussi avec certaines cultures comme le riz, mm-hmm. bon, les chiffres sont multipliés par 30. C'est pour ça que ça met... Il y a un autre sujet énorme avec l'agriculture, mais on va se polariser sur transport résidentiel, mm-hmm. industrie, et pour voir comment on peut travailler. Mais on a une première piste, c'est que plus la fée électricité est rentrée, bah plus ça baisse les émissions.
D'accord. Donc
on voit la stratégie se dessiner, vous voyez.
Ouais, mais on a vraiment aujourd'hui, donc malheureusement, on a encore une forte dépendance au pétrole qui fait qu'on est encore très élevé, notamment dans les transports. Ça se corrige, mais on voit quand même que la vente de voitures électriques, il y avait des chiffres qui sortaient ces temps-ci. On voit qu'on n'est pas aussi bon que ça. On voit. Alors c'est vrai que l'agriculture, on va le traiter un peu à part parce qu'elle a
la méthanisation. Oui,
mais quand même, on voit qu'il y a encore beaucoup de pétrole utilisé, enfin pétrole méthane utilisé. Si on remonte aux matières premières justement de chacun, le charbon,
alors,
gaz, tout ça.
Bah bon, on va regarder le pétrole parce que si vous voulez, le point important, c'est que le gros paquet, c'est quand même le transport.
Ouais.
Et c'est donc le pétrole, d'accord. Alors on va regarder maintenant un peu plus fin dans le transport. Mm-hmm. Et il y a évidemment la fée électricité qui arrive. Alors pour l'instant, sur le parc de voitures, l'électricité c'est tout petit. Mais sur les ventes, ça devient un peu plus important.
Oui.
Alors regardez l'intérêt de BFM Stratégie, courbe d'expérience. Alors j'aime beaucoup cette courbe d'expérience parce que Frédéric, c'est un de nos auditeurs.
Qui l'a envoyé.
Il y a cinq ans, m'a envoyé et il m'a demandé, Monsieur Fontanet, est-ce que la slide est bonne? Hein, donc j'ai déjà envoyé au BCG qui ont dit qu'elle est bien faite. Et alors regardez ce que le gars disait. Donc c'est un gars qui nous écoute. Hein. Bon, regardez la courbe d'expérience des batteries. Vous voyez comme elle descend ?
Mm-hmm.
Bon. Et regardez l'effet qui se passe. Le gars était bon parce qu'il avait vu ça il y a longtemps. Il y a la part du coût des batteries dans le coût des voitures. Mais la part du coût des batteries va descendre. vous voyez que les batteries maintenant, bientôt, ça va représenter un petit coup des. La part, au début, c'était 60-70% de voitures. Oui. Maintenant, donc, très vite, les prix des voitures électriques, eh ben, elles vont descendre. Donc, il y a encore des tas de soubresauts, l'Europe résistera, mais il y a quand même une sacrée tendance pour que les voitures deviennent électriques. Hein. Alors, vous vous rendez compte, le truc qui se passe pour les pétroliers. Parce qu'on tend,
Je reviens juste sur la part. Là, je m'arrête juste un instant sur la voiture électrique. Parce qu'on a vu quand même là, en ce moment, on vit le lithium qui était à 80 000 $ la tonne, c'est tombé à 25 000 $ la tonne. Le nickel aussi qui enfin, tous ces prix baissent. Ouais. Ça a quand même un impact.
Ah, alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais Frédéric, je vais vous expliquer un peu plus tard.
Oui, on va y revenir
dessus.
Attendez,
retenons la bonne nouvelle. Là, ça veut dire quoi? Et on va vous expliquer pourquoi les prix vont baisser dans le lithium, tout ça. Vous allez tout de suite piger pourquoi. Et là, le truc à remarquer, c'est que la voiture, alors ce sera peut-être pas 100%, mais la part de marché de l'électrique dans la voiture, elle va grimper. Hein. Et donc, vous vous rendez compte, le slide suivant de la conséquence, c'est que les pétroliers, ils ont un gigantesque problème de diversification, puisque le gros business qu'ils ont, à long terme, il descend.
Ah oui.
Donc on tape beaucoup sur les pétroliers, mais attendez, faut se mettre à leur place. Ils ont un gigantesque problème de réorganisation.
Mais en même temps, ils le savent.
Bien sûr.
Enfin, ils le savent depuis quelques années quand même.
Ils ne sont pas idiots.
Oui. Hein.
Ils ne sont pas idiots. Donc je vais vous dire, je vais vous raconter après comment. J'ai lu tous les rapports annuels et tous les chairman. Je peux vous dire qu'ils ont tout à fait pigé. Hein. Mm-hmm. C'est des gens qui sont pleins de bon sens. On va y venir après. Parce que là, le point à faire, si vous voulez, c'est que on s'occupe maintenant, vous voyez, la fée électricité. C'est elle qui porte. Comment est-ce qu'elle est financée? Comment est-ce qu'elle est produite? Alors, vous voyez, il y a une très grande différence entre la France et l'Allemagne. C'est que la France est avant tout nucléaire. Hein. Donc, même si depuis une quinzaine d'années, on s'est ingénié à freiner le nucléaire, ce qui, de vous à moi, est une boulette épouvantable. Bon. Parce qu'on a freiné un leader mondial, au passage. Hein, dans le plus gros métier du monde. Hein. Donc, EDF, il aurait pu être une GAFA. Hein.
Ah oui.
Et là, ils sont...
Et derrière, on a du mal à retrouver les compétences.
Oui,
derrière,
et donc, il y a tout un boulot de rattraper toutes ces bêtises. Bon. Mais donc, nos très anciens ont très, très bien vu le coup. Et vous voyez que par rapport aux Allemands, les Allemands sont à 45% encore charbon. Hein. Alors, donc, par contre, vous voyez où sont bons les Allemands? Ils sont très bons en éolien. Mmh. Donc, les Allemands, ils partent sur photovoltaïque éolien. Vous savez qu'ils étaient très, très anti-nucléaires.
Oui.
Et donc, ils sont partis de ce côté-là. Alors, regardez, il y a des bonnes nouvelles, là. Slide suivante. On va tout de suite regarder les courbes d'expérience d'éolien. Alors, ça avait été donné par un très gros private equity, qui est un des plus gros investisseurs mondiaux dans les éoliennes et dans le solaire. Donc, ils savent ce qu'ils font. Et ils m'ont amené des courbes d'expérience. En disant, Monsieur Fontanet, est-ce qu'elles sont bonnes?
Mais je vous conseille vraiment de nous suivre en télé, parce que sinon, en radio, c'est inexplicable.
Hein, ah oui, alors là, c'est compliqué. Mais alors, vous voyez ce qui est absolument sublime. Ils ont mis donc les parcs installés en abscisse, en ordonnée, ils ont mis les prix de revient. Et vous voyez que, en fait, les plus compétitifs, c'est le offshore wind. Donc, le plus compétitif, c'est l'éolien offshore. Mmh. Entre les deux, vous avez l'éolien terrestre et vous avez le solaire qui est bien, mais qui est quand même beaucoup plus cher que l'éolien offshore. Hein. Donc, attendez, ça, c'est des très bonnes nouvelles, ça. Parce que ça veut dire que nos électriciens, si on pousse là-dedans, ils ont des courbes d'expérience en phase 2. Donc, si vous voulez, on a quand même la fée électricité plus la capacité de la fée électricité à avoir des courbes d'expérience qui baissent. C'est quand même des nouvelles... Dans tout, tout ce qu'on entend, il faut dire quand même que tout n'est pas forcément mauvais. Hein. Alors, regardez, vous allez voir la slide suivante, pourquoi on a intérêt à se fatiguer. Alors, vous voyez, cette slide représente les bilans carbone. Je m'excuse, après on n'arrête pas les chiffres, hein, Frédéric. Mais il faut quand même tout avoir en tête. Et puis, ça, c'est les tonnes de CO2 par térawattheure.
Hein. Parce que si on fait un petit bilan, en gros, on a quand même on a compris, il faut pousser l'électricité.
Ah voilà,
ça c'est simple. Mais on a quand même des pétroliers qui sont un peu gênés par tout ça, enfin plus que gênés d'ailleurs, parce que l'avènement de la voiture électrique,
leur chiffre d'affaires va descendre. Hein,
en plus, avec une date, il y a une date échéance qui sera, tout le monde le dit, sans doute repoussée. Qui les a empêchés? Moi, c'est toujours ce que je pense. Je pense qu'on a toujours peut-être été un peu vite vers l'électricité. Peut-être qu'on aurait pu avoir d'autres moyens, mais enfin bon, l'élan est pris. On a tous les mineurs qui sont gênés à cause de la politique allemande vers les énergies nouvelles.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire leur business?
Parce qu'eux aussi, ils doivent vivre. Et puis, on a les électriciens qui s'affolent un peu, parce qu'il faut qu'ils montent, eux, en puissance, parce que si on... qui dit davantage d'électricité, bah oui, dit davantage
de. Est-ce qu'ils ont les sous pour financer, oui. Hein, en gros, bah, vous résumez exactement le problème stratégique. Mm-hmm. Hein. Alors, on quitte ces cela et simplement, ça vaut le coup de se fatiguer parce que, au passage, une centrale à charbon, ça met 100 fois plus de CO2 dans l'atmosphère que le nucléaire et l'éolien, au passage. Hein. Et une centrale à gaz, ça fait 40 fois plus.
Bilan carbone, le solaire c'est 40, l'éolien c'est 11, le nucléaire c'est 12.
Ouais.
Donc l'éolien et le nucléaire sont pas très loin, mais je pense que le nucléaire produit beaucoup plus, enfin, à taille équivalente.
Ah non, non, ça c'est vraiment au térawattheure qui sort. Hein.
D'accord.
L'avantage, c'est que c'est au térawattheure. Hein.
Ah,
il y a peut-être une différence entre les grosses et les petites, mais dans les grandes masses, c'est le térawattheure qui compte.
Donc éolien nucléaire, centrale à gaz naturel, 400 centrales.
Ah oui, vous voyez.
1000.
Vous vous rendez compte ce qu'on a gagné? Donc ça vaut le coup de se remuer. D'accord, hein, mais ça pose un gigantesque problème, évidemment, aux mineurs, aux pétroliers. Alors, la slide suivante. La question, si vous voulez, qui se pose, c'est qu'on va s'amuser. Alors, les souliers.
Oui, parce qu'on a envie de comprendre. Alors, ils ont tous compris que.
Alors, attendez, je vais vous dire, je me suis payé ce qu'il faut faire, tous les rapports annuels de tout le monde. Alors, premier sur lequel je suis tombé raide par terre, Exxon. C'est le plus gros pétrolier. Alors, lisez bien le rapport annuel. Gros investissement d'Exxon, il rentre dans le lithium. Ils se payent la plus grosse mine du monde de lithium, 65 milliards de dollars. Mm-hmm. Vous vous rendez compte le truc? Ils ont un résultat de 60 milliards. Ils mettent tout le résultat dans le lithium. Donc, le chairman a dit, je sais que le pétrole à long terme est menacé, le futur c'est l'électricité et les batteries, je rentre dans le lithium. Donc, vous voyez, vous prenez Aramco. Alors, je vous conseille vraiment de lire le truc d'Aramco. Aramco, eux aussi, ils vont dans les batteries. Et ils parlent même d'acheter un fabricant chinois de voitures électriques. Vous vous rendez compte jusqu'où ils vont? Aramco. Regardez Shell. Shell parle de fusion nucléaire. Vous vous rendez compte? On sait très bien que Total fonce dans les énergies nouvelles, les éoliennes et la méthanisation. On sait très bien. Donc tous les. Bon, les mineurs, pas compliqué, ils vont tous dans le lithium. Mmh. Et ça explique pourquoi les prix chutent. C'est qu'ils sont tous en train de mettre des capacités gigantesques et ils sont en train de prendre des contrats à long terme. Et comme il y a de la bagarre.
Ouais.
Saine concurrence, les prix descendent et l'initiative individuelle et la concurrence fait que tout ce petit monde rentre dans l'ordre.
Et en plus, comme on a de l'inflation, on achète moins de voitures électriques, du coup, il y a
voilà,
du stock et on
voilà,
a.
Vous voyez, donc le système, il est en train de se. Alors, on a fait, Frédéric, on va s'amuser à faire un scénario. C'est-à-dire que maintenant, on a campé le décor, hein, donc je m'excuse pour les chiffres, mais c'était utile. Non, regardez la slide, la slide précédente.
On va revenir en arrière sur
la slide en arrière.
Parce que ça veut dire qu'on.
On va faire un plan stratégique, on va faire un échiquier et faire jouer les gens dedans, vous voyez.
Parce qu'en gros, là, on va retrouver notre célèbre plan, qu'est-ce qui est le
les vaches à lait, les étoiles, etc.
Vous voyez,
bah oui,
parce qu'on a bien compris que personne ne pouvait garder ses pieds dans le même
bateau. Bah oui, une mine de charbon, c'est une vache à lait qui descend.
Mm-hmm.
C'est une vache à lait qui décroît, même, vous voyez. Mais même le pétrole, c'est de la vache à lait.
Mm-hmm.
Il n'y a plus de croissance. Mais il y a du cash.
Oui.
Bon, et puis vous avez des étoiles, les dilemmes, c'est le nucléaire. Énergie nouvelle, ça va croître beaucoup. Donc, vous voyez, donc c'est des trucs qui sont en haut. Donc comment est-ce que le cash va passer? Est-ce qu'il y en a assez?
Mm-hmm.
Est-ce qu'on a un drame de financement? Ou est-ce qu'au contraire, il y a le fric pour ça? Alors, on va faire un scénario pour mettre des chiffres quand même. Oui. On va prendre 25 ans. On va s'amuser à faire un scénario. On fait décroître les centrales de charbon de 6 par an. Alors, 6 par an sur 25 ans, on divise par 4. Hein. Donc, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Le nucléaire, on fait monter ça à 6% par an. Beaucoup de gens disent qu'il faut aller plus vite. Mais attendez, la complexité de tout ça ne peut pas monter trop, trop vite. Hein. Donc, déjà, 6, à mon avis, bon, je ne suis pas un spécialiste des DF, mais
il y a l'effort. Hein. La réglementation.
Les réglementations, derrière, tout ce truc-là. Bon. Les énergies nouvelles, on les fait croître. Et puis, l'électricité, il faut qu'elle parte de marché. Elle gagne des parts de marché. Donc, elle va croître à 5. Hein. Elle va être alimentée par les nucléaires et le nouveau qui croît. Et par contre, il y a toute la partie centrale à charbon qui décroît. Donc, l'électricité, ça ira un petit peu moins vite que le nucléaire, vous voyez. Alors, quand on fait les calculs, ça fait baisser les émissions de 3% par an. Divise par 2,5. Ah, attendez, c'est pas mal comme truc. Hein.
Ah oui, déjà, oui. Hein.
Alors, le seul problème, c'est est-ce que ça se finance, quoi. Hein.
Mm-hmm.
Hein. Alors, je pense que les opérateurs... que sont les mineurs et les pétroliers sont tout à fait dans ces deux. Alors maintenant, est-ce que les électriciens ont le fric, hein? Alors, on va revenir à BFM Stratégie, hein, à tout ce qu'on raconte en finance. Donc, slide suivante. Alors là, on a fait, c'est des petites. C'est le même truc que la précédente. Hein. Mmh. Vous voyez, on fait descendre l'exploitation gaz-pétrole, qui était le plus gros business aujourd'hui. Donc, il va devenir relativement à 25 ans plus petit. Et vous voyez que qu'est-ce qui va croître, c'est le nucléaire. L'autre grosse business, c'est la distribution d'électricité.
Mm-hmm.
Parce que tout le monde dit que c'est facile de distribuer, mais c'est extrêmement coûteux de faire des réseaux électriques. Oui. Hein, avec la haute tension
oui,
et tout.
Oui, puis avec la même tension.
La même tension très voilà, loin.
Vous partez dans vos cours de physique, là, pour
ça
le
va
coup.
Ça va circuler un peu plus loin, etc. Ouais, vous rendez
moins,
compte
moins de quoi. Pertes, etc.
Voyez, les mines, ça va devenir... Les mines de nickel, ça va devenir aussi gros que le charbon, vous voyez. Mm-hmm. Donc, en fait, on a un schéma. Si les opérateurs jouent dans ce sens... Je veux dire, on va regarder maintenant avec le cash.
Mais ça veut dire que la part d'électricité, elle pourrait doubler en
Oui, ben écoutez, alors vous voyez, si l'ensemble croît, j'ai mis 1,5, et que l'électricité croît à 5, elle passerait de 30% à 60%. Vous voyez ? Donc il resterait encore, mais la fée électricité aurait pris des grosses parts de marché. Mm-hmm. C'est énorme, hein, sur 25 ans. Donc, mais c'est, normalement, c'est ce qui devrait arriver. Hein. Faut pas avoir peur de changement. Alors regardez. Le sujet, vous voyez, moi, je me suis toujours demandé, c'est est-ce qu'il y a le fric ?
Bah oui, c'est est-ce ça, parce que moi, c'est ce que j'ai à vous dire. Est-ce qu'il y a des investissements derrière tout ça ? Parce que
bah oui,
donc, il faut continuer à faire vivre l'existant, bah accompagner oui, vers sa transition.
Et puis financer tous ces trucs qui sont gigantesques. Alors, dans les journaux, on voit des tas de trucs avec des 7 000 milliards, etc. Mais il faut voir, slide suivante, que les disponibilités sont très importantes. Alors, regardez, cette slide, elle est extrêmement synthétique. Je veux dire, elle n'est pas forcément exacte dans le détail. Mais on rate pas les marges. Je me suis amusé à prendre tous les actifs des pétroliers aujourd'hui, entre l'exploration, le nucléaire, les énergies nouvelles, bon, tous les actifs des mineurs et tous les actifs des électriciens. Vous voyez que les pétroliers en net, hein, amortis, ils ont 600 milliards. Les mineurs, ils ont 300 milliards. Donc pratiquement les deux, il y a presque 1000 milliards, vous voyez, ouais, sur l'Europe. Hein. Et les électriciens, en prenant les Allemands et les Français, on a en gros 450-500 milliards. Vous voyez que la masse des cash flows, des capitales engagés dans ce qui descend, est tellement importante que, oui, en théorie...
Ils n'ont pas assez pour changer.
Alors, évidemment, si les gouvernements commencent à trafiquer tous les prix d'électricité pour, etc., il n'y aura pas les cash flows. Hein. Mais si on laisse le système concurrentiel fonctionner, à ce moment-là, à mon avis, il y a assez de fric. Hein. Alors, c'est ce qu'on va faire avec le jeu. Oui. Slide suivante. Hein.
Parce que c'est là où on va se mettre dans la peau d'un
dévier. D'accord, Frédéric, on est un petit peu une espèce d'université d'un nouveau style, hein, une école d'un nouveau style, avec les examens qui sont les jeux. Hein. Bon. Alors, là, je me suis amusé. Alors, tout ça, on va le raffiner encore, hein, Frédéric, parce qu'avant de lancer
Donc, vous annonce, hein, on va lancer un jeu cet été, comme on l'a déjà fait avec Stratena, notre partenaire. Et donc, le but, c'est de vous allez être dirigeant d'une entreprise dans le domaine de l'énergie, et vous allez devoir avancer vos pions sur 25, 30 ans en général.
Oui, 25 ans, on va voir ça, 25 ans, 30 ans. Je vais voir si on fait 25 ou 30 ans, on va réfléchir un peu.
Tout ça, et puis bien entendu, comme
souvent, on va vous mettre, alors vous voyez,
les vainqueurs ici.
Il y a des pétroliers, Latos, un pétrolier, Neder, hein, donc ça n'a aucun rapport avec la réalité, sauf que c'est quand même bon, un peu inspiré. Vous avez à droite Ukeol, qui est un pétrolier, donc vous voyez, ils sont soit dans les énergies nouvelles, soit dans le nucléaire, hein, parce que Shell parle très sérieusement de fusion nucléaire. Hein. Ouais. Et puis, il y en a qui parlent, par contre, qui vont plutôt dans les mines. Après, vous avez donc le deuxième, donc FDE et New Hero, ce sont des électriciens. Donc, il y a des très gros actifs dans la distribution. Il y en a un qui est plutôt nucléaire, l'autre qui est plutôt centrale à charbon. Bon, voilà. Après, dans les mineurs, ils sont tous dans les mines de charbon. Et en gros, ils ont le lithium comme avenue. Et lorsqu'on va s'amuser, c'est à vous mettre PDG. Hein. On va vous mettre PDG d'un pétrolier, PDG d'un électricien et PDG d'un mineur. Mmh. On va voir vous débrouiller, contre des intelligences artificielles. Et puis ceux qui auront fait les meilleurs scores, on va les inviter. Hein. Voilà un petit peu l'idée.
On le recevra ici, puis on va voir un peu, parce qu'on peut déjà... Vous avez déjà repéré un peu ce que font, enfin, vous l'avez dit, hein, on a un total énergie qui va vers le...
Il va se passer des trucs très originaux, parce que d'après tout ce qu'on voit, j'ai même vu, par exemple, qu'il y avait la plus grosse mineure du monde, il a envie de rentrer dans la distribution d'électricité. Ouais. Alors lui, il est vraiment malin. Il ne va pas prendre les paris sur est-ce que c'est le nucléaire, il va acheter la boîte. Donc, le business de distribution d'électricité, c'est un très beau business. Donc, il y a même des mineurs qui annoncent qu'ils réfléchissent à y aller. Vous rendez compte ? À y aller peut-être en partenariat avec des électriciens.
Oui.
Donc, je pense qu'on va avoir... Et ça, je vais laisser la créativité... On va laisser la créativité de nos entre guillemets, élèves, téléspectateurs, parce que je suis persuadé qu'ils vont trouver des trucs astucieux qu'on n'a peut-être pas pensé, vous voyez.
Mais vous pensez, voilà, si on revient dans le vrai monde, qu'on pourrait arriver à des méga-fusions entre des acteurs
Ça va sûrement jouer. Hein. Ouais. Ou alors peut-être des participations, vous voyez. J'ai dit des trucs énormes, parce qu'on était en classe, hein, d'accord. Mais EDF peut dire, je ne peux pas tout porter, j'offre 50% du nucléaire à je ne sais pas qui, à Total, j'ai n'importe quoi. Mais je ne parle pas pour tout ça. Hein. Mais je suis prof, hein, d'accord. Donc, mais c'est des idées qu'il y a, c'est ça qui va se passer à mon avis. Pas forcément des méga-fusions, mais il va y avoir des joint ventures. À mon avis, c'est ce qui va arriver. Hein. Mais c'est le jeu qui va le dire. Hein.
Voilà, eh bien, on vous invite à participer à ce jeu. On reviendra, bien entendu, sur ce jeu. Ce sera notre jeu de l'été. Merci, Xavier Fontané, de nous avoir éclairé. Alors, je pense que pensez à revoir cette émission en replay, en podcast, voilà, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Si vous nous entendez à radio, je vous conseille d'aller voir BFM Stratégie, donc sur réchauffement climatique, réduction des émissions CO2, d'aller le voir en images, parce que c'est là où vous allez voir vraiment ces courbes d'expérience qui vous en apprennent beaucoup, beaucoup sur ce business, un peu de l'énergie qui est en train d'être complètement, tout est en train d'être chamboulé, et on ne peut pas tirer un trait comme ça sur le passé, hein. C'est ce qu'on a essayé de vous faire comprendre ici même aujourd'hui. Merci Xavier Fontané, merci à vous de nous avoir suivis, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.